Hey ho, let's go, c'est Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B, 500e épisode, avec cette fois un trio, hein, moi-même, et puis Roger, et puis notre petit stagiaire de troisième.
Oui, je suis venu avec mon goûter encore.
Monsieur Carpetto.
Bien sûr, tout à fait.
Qui est là, représentant la boutique dont on taira le nom. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, on est autour de la news et de la chronique. Il y a des bulles qui approchent. À mon avis, il y a pas mal de sorties. Enfin, je sais pas, monsieur Carpetto, si vous avez remarqué ça.
Ouais, on croule sous les sorties, on sait plus où ranger les BD. C'est un peu la folie.
Ça, c'est bien. Et on veut donc, en prévision de ce qu'est des bulles, peut-être que. Je sais pas, moi, je crois pas qu'ils y seront. Je sais pas pour vous, ça a l'air très comics. Et Roger, c'est des trucs d'intello, ils y seront peut-être.
C'est vrai, pas beaucoup de fun. À mon avis, c'est l'époque qui veut ça. Entre Trump et Netanyahou, et puis tous les affreux de la planète, j'ai l'impression que ça impacte un peu le monde de la BD.
Bon, peut-être. Bon, enfin, alors on va lancer un morceau guiré pour animer tout ça et essayer de vous remonter le moral, mon bon Roger. C'est parti. Et ben voilà, maintenant que tout le monde est perché, on va avoir droit à une histoire de tonton Roger, parce que tonton Roger, il a toujours une actualité.
Oh oui. Alors, c'est pas pour dire du mal de la boutique dont nous tairons le nom, mais je ne sais pas comment ça se fait que ça vous a échappé, qu'après on nous accuse, vous ne parlez plus que de la boutique dont nous tairons le nom, il y en a que pour eux, et ben non, c'est pas vrai, puisque une librairie dont on ne taira pas le nom, du coup, parce que je sais pas pourquoi.
Le chèque était plus gros.
Le chèque. Elle s'appelle la librairie Le Fayère. Et la librairie Le Fayère, comme nombre de librairies, ont leur rayon bande dessinée. Vous n'êtes pas sans l'ignorer, hein, monsieur Carpetto.
Tout à fait.
Et travaille dans ce rayon BD, un monsieur qui s'appelle Fred. Voilà. Il a fait des expos, je pense, à Quai des Bulles pendant un temps. Il travaillait, vous qui rappelez des visages, des noms.
Ouais.
Et là, maintenant, il travaille pour Le Fayère. Et apparemment, il s'est débrouillé pour qu'à la mi-novembre, mais on en reparlera, hein, parce qu'ils ont promis de nous payer un coup. Donc vous imaginez bien que vous en trouverez parler.
On sera sur le coup.
Mais ça sera l'occasion. Il y aura deux trucs. Il y aura deux temps forts. Hein. Le vendredi soir, à partir de 18h, où vous pourrez rencontrer des auteurs, excusez-moi du peu, comme Julien Solé, comme Monsieur Arnaud Gouéfec, comme Monsieur Rezé. Et
les Brézous de l'étape.
Voilà, ça va être un peu les locaux
les
de l'étape.
Les fluides Brézous.
Voilà. Et ça sera le vendredi soir, moyen d'avoir des dédicaces, de boire un coup. Et en plus, le lendemain se tiendra à partir de... Alors ça, bah, c'est pas trop tôt. Je crois que j'ai cru comprendre que c'était 10h ou 11h. Un débat animé notamment par Monsieur Le Gouéfec. Et Monsieur Le Gouéfec, Monsieur Carpetto, c'est pas vous qui me contredirez, et l'auteur, le co-auteur d'une magnifique bande dessinée que vous n'avez pas achetée parce que vous n'êtes pas assez cher payé. C'est bien dommage, mon bon Erwan, mais vous auriez sûrement acheté Underground.
Des deux tomes d'Underground.
Il y a deux tomes, ouais.
Il y a le deuxième est sorti,
et,
là.
Ouais. Et Monsieur Le Gouéfec, et c'est qui au dessin? Aidez-moi, c'est, je crois que c'est...
Voilà, oh, c'était pour Nabril.
La c'est fourberie.
C'est Double Traquenard.
Non.
Fatality.
Non. Il voudra plus venir. Non, c'est pas vrai. Parce que c'était à moi de le savoir, parce que c'est moi qui ouvre ma goule, donc, voyez...
Attendez, je réfléchis, ouais, je cherche dans ma mémoire
sur
téléphonique.
Mémoire électronique.
Mayday.
Mais c'est vrai que non, c'est pas de sa faute, c'est moi qui l'use. Dû le savoir. En tout cas, il y aura un débat. Il y aura...
Autour de quel thème? Bonne question.
Alors, je sais tout ça depuis ce matin. Je vais affiner l'affaire d'ici la semaine prochaine, mon bon Erwan.
Nicolas Moog. Pardon? Nous parlons de Nicolas Moog, le dessinateur.
Voilà, Nicolas Moog. Je l'avais sur le bout des lèvres. Voilà, Nicolas Moog. Parfaitement. Il dessine également. On le voit également dans Flux Glacial et dans la revue dessinée. Je vous ferai dire.
C'était un grand moment de télévision.
Voilà, mais on est à la radio, ça tombe très bien. Donc on sait que c'est Nicolas Moog et comment Arnaud Gouéfec. Alors Nicolas Moog, j'ai pas entendu dire qu'il serait là par contre. J'ai pas entendu dire. Et donc voilà, il y aura. Donc ça se tiendra à la mi-novembre. On précisera les dates, on précisera les horaires, tout ça. Mais ça sera la librairie Le Fayère qui elle, est située rue. Victor Hugo, c'est la rue en dessous de la rue Victor Hugo, hein. Je ne sais plus comment elle s'appelle.
Saint-Georges.
La rue Saint-Georges.
Exact, c'est ça.
Monsieur Carpetto. Vous avez une news, vous aussi?
Ouais, enfin, c'est une petite info qui peut intéresser des gens. C'est Comics Initiative a lancé encore une fois une souscription sur un album. Et là, en fait, c'est une refonte éditoriale totale de Macabre de Steve Niles et Bernie Wrightson. L'auteur de Creepshow, quoi. Donc, si vous aimez le gothique et les histoires des marais, donc ils ont lancé une souscription pour rééditer un album qui s'appelle Macabre, qui est vraiment un pur moment de marais gothique. Moi, c'est comme ça que je définis un peu Bernie Wrightson. Les planches ont été remasterisées, etc., etc. Donc, souscrivez et puis vous gagnez des petits trucs, notamment des marques tapage, des machins. Enfin, selon vos souscriptions, il y a même une variante qui a été faite avec une nouvelle couverture de Monsieur Laurent Lefebvre. C'est pour ça aussi que c'est comme ça que j'ai découvert cette affaire, puisqu'il en parle.
Ouais.
Il est assez fier de son travail sur cette variante couverture, et c'est vrai qu'il est chouette. Enfin voilà, si vous aimez un peu ce genre-là, comme je vous dis, avec des créatures du marais, des fantômes, des squelettes qui parlent, si vous aimez vraiment le Creepshow, c'est un album qui peut vous intéresser.
Ok, voilà. Je connais pas du tout, c'est une vieille BD.
Ouais, c'est une vieille BD, donc ils ont repris. Bernie est mort il y a quelques années, je crois. Et en fait, c'est un monsieur vraiment intéressant pour dans le genre comme ça, un peu grand guignol. Enfin, entre des trucs à la Alan Edgar Poe, il a fait plein d'adaptations. Je crois qu'il a fait Alan Edgar Poe d'ailleurs. Cthulhu. Okay. Enfin, il pioche un peu dans tous ces univers fantastiques noirs. Moi, j'adore. Bref, on vous mettra le lien sur le blog.
Ouais.
Et moi, c'était plus ça.
Je vais terminer avec une nouvelle pas bien rigolote non plus, mais c'est l'époque qui veut ça. Après la mort de Charlie Kirk, les propos haineux de cette scénariste poussent DC à annuler une série de BD. Red Hood est mise à l'arrêt. Vous
ouais,
le savez.
J'avais vu ça. Alors c'est une série qui en plus je crois commençait juste. En fait, c'est pour ça qu'elle n'est pas trop connue. Enfin, les personnages, sans doute qu'on les a déjà vus. Là, alors, je vois pas lequel c'est Red Hood, mais enfin. DC, de toute façon, c'est une franchise, donc j'imagine que les personnages en connaissent et qu'on devait nous proposer une version un peu peut-être woke aux yeux de Trump. si la scénariste, je crois, s'est lâchée sur Charlie Kirk.
Ok.
Ouais, ouais. Ouais.
Après,
un bel exemple de la guerre culturelle aux États-Unis, en fait. Sous la pression, hein, par les réseaux sociaux.
On avait pas mal discuté, on a reçu James Tanyon dans la librairie dont on tient le nom, et qui nous avait parlé un peu de DC comme de Marvel, et qui étaient des sociétés qui s'approchaient de plus en plus de Trump et qui aimaient bien ce personnage. Donc forcément...
Comme le monde, comme la Silicon Valley, finalement. Il y a une espèce de... C'est comme un grand trou noir. Tu vois, une fois que t'es dans l'orbite, t'es attiré. C'est fou. Voilà. C'est fou.
Merci Roger pour cette bonne nouvelle.
Vous
voyez, comme moi, ça vous fait parler quand même.
Mais là où vous êtes bon, voilà, c'est ça. C'est que vous avez mis une pièce, pouf, et puis allez les petits. Voilà. Parce que là, vous êtes en train de scroller sur votre... voir ce qui se passe sur Instagram pendant que les deux jeunes, là, on discute. Et puis c'était un beau débat. Pour un beau débat, c'était
mais
un beau
c'est
débat.
C'est surtout parce que je savais que ça vous aurait...
titillé.
Et je suis ravi que vous eussiez été déjà au courant parce que c'est un peu flippant quand même. On se dit quand même qu'on vit des périodes qui ont été, on a vécu des périodes plus fastes au niveau de la liberté d'expression, somme toute.
C'est clair, c'est clair. Interlude musical.
Wouhou.
Wouhou. Décidément, c'est une programmation très garage à cette session. Bravo, les Bass Drum of Death, j'adore. Never Jamming. Alors, il paraît, tonton Roger a une annonce à faire, si j'ai bien compris.
Ouais, c'est toujours Noël, chez Plume et Pinceau.
Plaisir d'offrir.
Et ouais, et joie de recevoir. Comme tous les ans, Kennebune nous fait la gentillesse.
Nous laisser venir.
Ouais, de nous laisser venir, déjà, de commander d'écumer le bar et les pots gratuits. Ah, j'ai un plan d'ailleurs, je le dirai tout à l'heure.
Bah, Tonton Roger a toujours des plans.
Le pot du maire est déplacé d'une demi-heure. revenons à nos moutons. Nous avons donc le festival Quai des Bulles, et c'est aussi pour féliciter le sérieux de notre émission aussi. C'est ça plus, c'est ça que
c'est
je cherchais.
C'est plus
à
ça.
Dire. Voilà. Et ben, il nous file 10 passes d'une journée à faire gagner.
C'est quand même... c'est sympa.
Ouais. C'est quand même pas mal.
Donc ça veut dire un jeu, ça.
ça veut dire un jeu fatal parce qu'on n'a rien sans rien. Donc il va falloir nous envoyer une photo de vous nu.
Avec une BD.
Avec une BD, non. Ça va être beaucoup plus simple que ça. Nous allons chroniquer un certain nombre d'ouvrages, comment dirais-je, tout au long de
cette émission.
Alors, on ne sait pas, entre 5 et 8, on verra bien, suivant notre volubilité. Nos bavardages et notre ouais, voilà, tout à fait. Faudra. Alors, moi, j'avais prévu un truc hyper compliqué, mais Monsieur Carpetto nous propose une version beaucoup plus simple à laquelle nous adhérons. Allez-y, alors, Monsieur Carpetto.
Oula, ah oui, ok.
Il a oublié. Je te l'ai oublié.
Alors, si j'ai bien compris les règles du jeu, il faudra retrouver qui a chroniqué quelle BD et les 5 premiers à envoyer un mail à Monsieur Roger Fringancy présent.
Voilà, ça sera l'adresse des Grignoux.
Retrouvable sur notre blog, voilà, et puis sur le blog des Grignoux.
Oui, du coup, les 5 premiers gagneront leur place. Voilà. Soyez rapide parce que...
Qui seront déposés à la boutique dont on terre le nom.
Oui. Mais du coup, est-ce qu'il faut continuer à taire le nom de cette boutique dont on terre le nom
pour qu'on peut donner son adresse précisément? Quel est le numéro
On la donnera en répondant au mail qui nous enverra la réponse. 1-1-1. Tu vois, Roger, c'est ça la vivacité.
Ah oui.
D'esprit.
Alors, j'ai pas compris. Ouais, voilà, moi, j'y suis plus dans la vivacité.
On répondra par mail.
Reprenons. À la fin, on va vous citer un album. Il faudra retrouver qui de Monsieur Roger dit le pinceau, Monsieur Carpetto et moi-même la plume, dit l'Irlandais, dit Erwan, qui a chroniqué. Il faudra nous envoyer un mail en nous disant la BD a été chroniquée par Imp. Voilà. Et nous, on vous dira, t'as gagné, t'as perdu, et si t'as gagné, on te donnera une adresse. Rendez-vous mystérieux au fond d'un parking.
La réponse, ça sera Matador.
Oh, c'est trop facile, il a cheaté.
Alors, premier ouvrage, c'est donc Monsieur Carpetto. Monsieur Carpetto, vous allez nous chroniquer quoi ce soir?
Eh bien, je vais vous chroniquer Drôme, publié chez 404 Graphiques. BD qui vient de sortir, c'est la troisième BD publiée en France de Jesse Lonergan, je ne sais pas le dire, Lonergan.
C'est très irlandais, je devrais le faire, mais pouf.
Bon courage.
Ouais, on passe.
Jesse Lonergan. Et donc, c'est une BD muette, c'est sa deuxième BD muette publiée, la première était chez les Humanos, maintenant c'est 404. C'est vraiment quelqu'un de très très fort pour la BD muette, il arrive, je trouve, à créer la narration à travers son dessin de manière très forte et ses découpages. Le mouvement se crée à travers ses découpages, c'est vraiment très fort. Et donc dans cette BD, on suit une créature céleste qui a à disposition une planète et va décider de donner la vie à cette planète et il fait naître un être humain. Le premier réflexe de ce premier être humain sera de tuer le second être humain à naître. Vraiment, on sent que ça va être un chic type. Et de tenter de diriger la planète de manière ultra-violente.
C'est nous, ça?
Ah bah ouais, c'est tout nous.
On y est. Ça nous sent pas mal.
Oh, vraiment, vous croyez?
Un second être céleste arrive, plus féminin, et dit mais ce que tu viens de créer, c'est vraiment le bordel. Il va falloir un petit peu d'ordre là-dedans. Et elle décide de créer une deuxième entité qui sortira de la mer et qui sera une femme qui est censée amener l'autorité et l'ordre. Sauf qu'elle va bien avoir du souci à se faire avec les humains. Voilà. C'est
Métal Hurlant.
C'est Métal Hurlant. Exactement. Alors, c'est pas chez Métal Hurlant, mais c'est du Métal Hurlant.
Ah, mais c'est vraiment. Justement.
404 Graphiques.
On dirait une version un peu bodybuildée, un peu de Miss Hulk de la fameuse, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, l'héroïne qui est sur l'oiseau, là, elle a les bottes en cuir, l'épée, et la chevelure. Et puis même le dessin, c'est du Métal Hurlant, quoi.
Le dessin est assez soufflant. On sent qu'il a envie de s'amuser avec les deux premiers testaments et de raconter n'importe quoi à partir de ça. C'est parfois drôle, parfois. Soufflant, on est vraiment sur un récit de fantasy assez incroyable.
Ouais, et il y a une touche druillée aussi, je trouve, rien que dans la couve.
Ah oui, il va s'inspirer chez plein d'Européens. Alors lui est américain, si je ne dis pas de bêtises.
Un dessinateur vraiment impressionnant. Ouais, les couleurs, putain, l'acide qu'on a pris.
Au niveau des couleurs psychédéliques, ça me fait penser à du vieux pilote des années 70. Vous avez ça avec Casa, vous aviez ça avec Druillet aussi.
C'est ça, ouais. Ça pioche vraiment là-dedans. C'est ce que je disais. Et en même temps, il y a un côté presque vitrail sur la couverture aussi.
Complètement dans le découpage.
Alors, le souci, Si souci il y a, c'est un très très gros ouvrage. Est-ce qu'il est très très cher?
Alors, le prix, je ne sais pas, mais pour le temps de lecture, vu que c'est du muet, on peut faire ça vite. Et sinon, pour le prix, il est à 29,90€.
30 euros, c'est pour
un gros ouvrage.
En plus, il est typique de quand même un peu de ce que font les maisons d'édition maintenant, c'est-à-dire des gros beaux albums. C'est-à-dire, on met le paquet quand même maintenant sur la qualité, sur des one-shots, parce qu'on a compris que c'était ça que maintenant les gens voulaient, les séries, c'est bon, on est gavé, quoi. Mais et donc, du coup, vraiment l'objet devient hyper important. Par exemple, 400. Moi, je parlerais de l'ogre, tu vois bien qu'il y a un effort sur le bouquin, rien que sur l'objet, quoi.
404, c'est un éditeur qu'on voit depuis peu d'années, je dirais 2 ans en librairie BD en tout cas, et toujours. Ça veut dire qu'ils font très attention à leur édition et ils communiquent énormément. S'il y a des problèmes dans l'édition, on a beaucoup de retours. Enfin, c'est vraiment l'éditeur qui fait attention à ça.
Ah ouais. Et donc, ça s'appelle
Drôme. L'auteur avait publié avant chez 404 Arca, qui était un autre très beau récit, et je crois qu'on doit sa découverte, en tout cas en France, à un certain Mathieu Bablé, qui a pas mal poussé pour que cet auteur soit découvert dans notre contrée.
Bablé, c'est pas aussi un dessinateur?
Mathieu Bablé,
label,
oui, 619, Shangri-La, Carbone et Silicium.
Il n'y a pas un album qui doit sortir,
et
justement?
Il y a sa future Silent Jenny qui arrive.
Ça a l'air bien, rien que la couve, j'adore.
Très rapidement, oui, c'est très beau.
Ouais, il va falloir que je vous le pique avant que vous le preniez.
Mais on l'a déjà tous lu, tout va bien.
Ah, les saligots, tu vois? Je t'avais dit qu'ils avaient une pièce au fond où on n'allait pas. Et oui, cacher des trucs. Je te l'avais dit, Roger, mais tu veux pas me croire. Tu veux pas me croire. Donc, ça s'appelle Drôme.
Monsieur Lonergan.
C'est ça, avec Lonergan. J'allais me lancer pour le dire, mais vous m'avez devancé, c'est super.
Et 404
c'est
graphiques.
404 graphiques. Impeccable. Ça, c'est donc la chronique de... Comment
Monsieur
il s'appelle?
Carpetto.
Voilà,
Carpetto.
Voilà, t'as entendu, Carpetto.
C-A-R-P-E-T-O.
On va peut-être pas le faire à chaque fois. Moi, je vais être plus bref, mais plus c'est marrant, c'est assez... Enfin, marrant, non, c'est absolument pas marrant. D'ailleurs, il n'y a rien de marrant dans ce bouquin-là. C'est même plutôt une tragédie. Ça s'appelle Le Voyage du Saint-Louis. Et un voyage sur un paquebot transatlantique censé quitter Hambourg pour aller à Cuba, ce qui serait plutôt un truc qui ferait plutôt rêver. Mais quand on regarde la couverture, on voit que ça va pas vraiment être la croisière s'amuse. Genre, le bateau est entre les mains, on voit paquebot, là, très stylé. Il est entre les mains bizarres qui surplombent un horizon de drapeau à croix gammée.
Il y a beaucoup de croix, ouais.
Effectivement, le sous-titre de cet ouvrage de Sara Della Bella et Alessio Lamanto, c'est Le Voyage du Saint-Louis, un épisode oublié de la Shoah. Et ce bouquin-là, il date de juin, je crois que c'est une sortie avant l'été. Et c'est vrai que je l'avais mis un petit peu de côté, sauf que je trouve qu'avec ce qui s'est passé, enfin ce qui se passait déjà et qui s'est développé, nous avons affaire à vraiment une métaphore de ce à quoi on peut assister à Gaza aujourd'hui, avec un génocide face à un peuple, comment dirais-je, qui doit payer les pots cassés pour une poignée d'extrémistes.
Vous êtes déprimé en ce moment, Roger.
Et ça, le voyage du Saint-Louis, c'est tragique. On a une poignée d'êtres humains, 900 et quelques, pour être précis.
Grosse
poignée de juifs qui ont réussi à avoir un visa pour Cuba en ayant dépensé pratiquement à chaque fois tout ce qu'ils avaient. Ils sont sur un paquebot, mais ils sont à moitié à poil. Et ils espèrent trouver un espace de survie à Cuba. On est en 39, ça chie du boudin en Allemagne déjà depuis pas mal de temps face aux juifs. Et cela arrive à s'échapper après qu'ils aient été dûment pillés par le régime nazi. Et on découvre qu'en fait, à bord du navire, à la place en lieu et place d'un matelot, s'était embarqué un officier, du parti nazi, et qui va tout faire pour surveiller le fait que ce bateau n'arrive jamais à Cuba. Effectivement, il n'arrivera jamais à Cuba. Sur les 900 passagers, ils vont d'abord aller à Cuba, d'où ils vont être refoulés. Ils vont aller après aux États-Unis, d'où ils vont être refoulés. Du Canada, d'où ils vont être refoulés. Et à bord, il y avait le commandant de bord. Heureusement pour les passagers, il s'appelle Gustav Schroeder, le capitaine. Gustav Schroeder, un marin émérite allemand. Marine de paquebot, etc. Et ce monsieur-là, on lui a confié une mission, c'est envoyer des gens les mettre en sûreté à Cuba, donc il les mettra en sûreté hors de question, qu'il les ramène en Allemagne. Parce qu'arrivé à Cuba, ils reçoivent un téléphone, on leur dit, on vous enjoint de ramener toute votre cargaison d'êtres humains à Hambourg. Et ce capitaine comment s'insurge, et en fait, il va faire défection, et il va réussir à déposer une partie de sa cargaison humaine, qui en Angleterre, qui en Hollande, qui en Belgique, qui en France, et malheureusement, des pays qui, pour la plupart, sauf l'Angleterre, vont être envahis, ce qui fait que sur la poignée de réfugiés, là, 300 vont être déportés, disparaîtront dans les camps de concentration. Et on revient à quoi? Parce que ce bouquin-là, dessiné, alors c'est, moi j'aime bien, ça me rappelle le, on est dans la ligne claire, un dessin très très ligne claire, avec, ça m'avait pensé au travail de Monsieur Lapone, vous vous rappelez, on l'avait rencontré, comment dirais-je,
il y a un moment,
au début, là, monsieur, tout, hyper gentil. Un Italien qui parle très bien le français, ça aide en interview.
C'est clair.
Et là, on est un peu dans ce registre-là. Vous voyez, ligne claire, réaliste, pas fun. Et à travers laquelle, eh bien, on nous raconte, on nous narre l'odyssée de ces malheureux 900 personnes qui font malheureusement un triste écho à ce qui se passe pour les milliers de Palestiniens coincés à Gaza, et que l'on voit se trimballer dans un putain de désert de gravats du sud au nord, de l'est à l'ouest, portant leurs pauvres baluchons, les pauvres survivants. Ben voilà, quand l'homme décide d'être pourri, il est pourri. Ça s'appelle « Le voyage du Saint-Louis », un épisode oublié de la Shoah. C'est paru aux éditions Marabule. Et c'est de, je rappellerai, ça sera sur l'excellent blog animé par Monsieur Plume, de Sarah Della Bella et Alessio Lomanto.
Ceci était une chronique à Roger,
voilà.
Alias Pinceau, alias Le Grignou.
Roger fiche la joie aussi.
Ouais, ouais, c'est clair. Bon, interlude musical. jusqu'au bout. Wow. Jusqu'au bout. Ouais, c'était vachement bien. Love's oh. Ugly Children, je connaissais pas du tout.
Ouais, ouais.
Il y avait un côté Dinosaur Junior, des chœurs à la Kim Deal, des Breeders. Bravo.
Une petite vidéo sympa en plus.
Ah. Il y a une jeune fille qui danse.
Ouais, ouais, enfin, là,
tout s'explique.
Non, vous allez voir, vous allez voir. Moi, d'aimer le fait de se faire tatouer, comment dirais-je, dans des conditions incroyables.
Alors, absolument rien à voir. Hein. Aussi, une histoire d'ogre. Ça vous va, une histoire d'ogre?
Bah justement, oui. Un peu de poésie, un peu de fantaisie.
Si vous allez dans une librairie, je pense que votre œil sera attiré forcément par la couverture de cet album qui est vraiment très, très réussi.
Ouais.
L'ogre, acte 1, Jean Dufaux, Juan, Luis Landa, c'est chez Glénat. Parce qu'on voit une scène de chevalier avec une espèce de prince vaillant. Alors, on ne sait pas si c'est un prince vaillant ou une Jeanne d'Arc. C'est une Jeanne d'Arc, hein. Ouais. Mais il y a un côté comme ça, coupe au bol. Vraiment une très très belle couverture. Et l'album, l'objet, c'est ce je disais tout à l'heure, est là encore une fois hyper soigné. Parce que c'est une de ces... Comment vous appelez ces couvertures comme ça ou...
ça ressemble à un toilage, je dirais.
Exactement.
Mais, comme si sur toute la couverture.
Sur toute la couverture, enfin, c'est ça.
Il y a une espèce de... C'est un carton vaguement toilé.
Avec des impressions dorées aussi. C'est vraiment bien. Alors on plonge, on est en 1427, les gars. Bon, en France, en 1427, c'est pas notre meilleure période.
C'est ça, la guerre de 100 ans, mais on voit le bout. Ça se termine en 1453, donc 1427,
ouais,
on commence
à voir le bout. C'est le moment où ça va bascule. Et le personnage où ça va bascule, c'est Jeanne d'Arc, quand même. Ouais. On est tous d'accord, voilà. En fait, c'est la petite histoire et la grande histoire. Parce qu'on va être donc en 1427, Charles VII est à Chinon. Isabeau de Bavière, son moment est à Paris, elle a laissé rentrer les Anglais, c'est vraiment, on est au fond du trou, Armagnac, Bourguignon, on se massacre, les Français se divisent entre eux, il y a l'Angleterre qui est là, bref, c'est la guerre de 100 ans. Et en fait, on va suivre ce moment crucial où Jeanne d'Arc va apparaître, en fait. Voilà. Et puis une affaire où on a un capitaine du roi de France, donc de ce roi de Chinon, Charles VII, qui s'appelle Guillaume de Blamont, qui en fait fait une enquête. Il cherche ce qu'il a appelé l'ogre, c'est-à-dire un tueur de petites filles qui court dans la campagne. Quand on le voit, il ressemble un peu à Quasimodo. Il est défiguré du visage et puis tu comprends très bien qu'il a un pet au casque et que
l'agresseur.
Ouais, l'agresseur. Il y a un côté un petit peu à la Murnau, tu sais, M. Et puis il y a un côté Quasimodo dans le personnage. Enfin, tu vois bien qu'il est inspiré de tout ça, quoi, de tueur en série. Il a un côté tueur en série, quoi.
Je croyais qu'il allait parler de Gilles de Rais, moi, du coup.
Eh ben justement, non. Gilles de Rais va être là parce qu'il fait partie de la grande histoire. Donc tu le verras, mais c'est pas lui pour une fois le tueur de l'histoire, tu vois justement.
C'est
un mec qui vient de la campagne, il s'appelle Jaco, quoi, et qui, je te dis, est une espèce de Quasimodo. Alors il traîne en fait avec une bande de une espèce de bande de mercenaires ou de types à la dérive, enfin qui se sont agglomérés autour d'un certain Colin Frappemisère. C'est une espèce un peu de bande de mercenaires qui combat pour le dauphin. Mais ils sont des francs-tireurs, quoi. Ils font pas partie de l'armée officielle. En fait, c'est évoqué à la bataille de Zinzincourt. De toute façon, la monarchie française a été privée de tout un tas de princes, ducs, etc. parce que c'était une boucherie innommable, c'est rappelé. Donc, en fait, il n'y a plus la noblesse pour défendre le pays, quoi. Et donc, c'est des types qui viennent, c'est des espèces de lance-quenets, des espèces de prolos qui vont former des bandes et qui s'en prennent à l'anglais. Donc, c'est des espèces de francs-tireurs.
Qui s'en prennent à l'anglais.
Tant qu'ils s'en prennent à l'anglais, qui obéissent finalement, ils pensent au roi, mais qu'ils obéissent qu'à eux-mêmes, quoi. Ils sont à moitié brigands aussi. Ils sont à moitié brigands. Ils sont vus comme des terroristes par les Anglais ou par, tu vois, il y a un côté résistance populaire. Donc en fait, notre ogre, il tourne autour de cette bande. On va le suivre lui et puis ses relations avec cette bande et en même temps donc l'enquête de Guillaume de Blamont qui cherche à choper le fameux ogre tueur de petites filles. Il y a une fille de Nanoulès à un moment qui est passée et du coup
c'est ça qui agite. Je me demandais bien pourquoi dans cette époque troublée c'est on prend le agite. Temps d'aller chercher un tueur de petites filles.
Donc c'est ça qui agite. Et en fait tu vas vraiment avoir cette espèce d'enquête très serial killer. et le fond historique qui vont se mêler et parce qu'à un moment en fait notre ogre il va alors qu'il est blessé vraiment traqué Guillaume c'est il n'aura jamais été aussi près dans le premier album que de rattraper son tueur qu'à ce moment-là notre Jaco donc notre ogre va trouver refuge dans une étable enfin et tomber sur une nana c'est Jeanne d'Arc qui est là assoupie.
Et il va se faire passer comme ça.
Non, et il va tomber en pamoison devant elle. En fait, ils vont discuter, etc. Et c'est un côté Belle et la Bête, quoi, qui se fait là. Et il va être là derrière elle, comme un ange protecteur, pour l'accompagner quand elle va à Chinon pour plaider la cause, Orléans, etc. Oui, ils suivront, tu vois.
C'est une Jeanne d'Arc adulte.
Ouais, c'est une Jeanne d'Arc adulte. Et il arrive, les trois pages, il y a trois pages vraiment magnifiques qui centrent qui sont au centre de l'album et qui sont au moment de la rencontre. C'est des pleines pages, t'as une qui reprend la couverture justement où tu vois Jeanne en armure survolant presque un champ de bataille où les bleus et les rouges s'affrontent, c'est hyper clair. Il y a ça, il y a le moment où elle assoupit, elle a un côté Disney, princesse, tu sais le petit rayon de soleil qui arrive sur le côté, la cheveux blonde.
Ce que vous aimez bien c'est les franges en fait vous.
Ouais. Oui mais ok, mais à un moment tu vois vraiment que la
calmez-vous.
Tu vois la scène, tout ce qu'elle a, il y a Jeanne qui rêve à son destin et lui qui voit ça avec ce côté.
Il peut y avoir des enfants qui nous écoutent.
Ouais. Mais c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est Jean Dufaux au scénario. C'est le mec Barracuda, Jessica Blandy, Murena. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Jean, il en a fait plein des séries. Le Jean Dufaux. Ce qui fait, à mon avis, aussi que. Glénat a bien misé sur le packaging, quoi. Mais ça fait un très, très, très bel album et c'est vraiment passionnant. Il y a même un petit cahier historique à la fin. Donc vraiment, grosse réussite. L'Ogre, acte 1, Jean Dufaux, Juan Luis Landa. Dessin réaliste. Plutôt belle couleur. Moi, je trouve le dessin assez agréable. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais.
Il y a une couleur un peu lisse.
La couverture est super.
On n'a pas vu l'intérieur, par contre.
Voilà la scène où. Il y a presque un petit côté comics aussi dans cette scène. C'est une princesse vraiment presque à l'américaine, j'ai envie de dire.
Je pense que la colorisation très lisse y est pour beaucoup à cet aspect comics.
Il y a un petit fond sépia et puis des scènes de bataille. Regarde ça, c'est dantesque. Il y a un enchevêtrement de chevaliers. Tu aimes les films avec des chevaliers?
J'aime bien la vraiment. La baston.
Ah ouais. C'est des bastons avec des grosses armures, presque à la Excalibur dans le film. Tu sais, ils ont des espèces de gros trucs là. C'est vraiment très très bien. Et là, tu vois Jeanne qui est éclairée par le soleil, elle tend la main, il y a un côté presque, tu t'attends à la main qui sort et qui vient toucher son doigt, quoi.
Et ça, c'est une histoire qui sera en trois actes, du coup, on peut...
Alors ça, j'en sais rien. Justement, ça, j'allais vous demander, est-ce que vous savez en combien d'actes, mais je vais pas le faire. Ça vous mettrait dans l'embarras, je crois.
Moi, je me suis dit qu'il y avait un côté théâtral à cette numérotation, acte 1, du coup, je me dis peut-être en trois actes.
Je suis assez d'accord. Mais c'est vraiment très réussi.
Le côté théâtral.
Bien sûr.
Non,
le théâtre, oui. Roger.
Toujours trois.
plutôt. Un, la mise en place. Deux, et puis ensuite la conclusion, quoi. Non, ok. Donc L'Ogre, ça acte 1, Jean Dufaux, Jean-Louis Landa et Glénat. Donc ça, c'était une chronique à Erwan, l'Irlandais ou
Dit
Plume.
Aussi Plume.
Dit aussi Plume. Voilà.
Dit aussi Plume.
Je passe la main.
Voilà. Et du coup, c'est Carpetto qui fait une chronique maintenant.
Voilà, il s'appelle Carpetto. La petite voix aiguë, c'est Carpetto.
C'est moi, la petite voix aiguë. Je vais vous chroniquer une BD éditée aussi chez Glénat. Alors, deux Glénat d'affilée, incroyable. Hélène de Windhorn.
C'est une belle maison quand même. Oui, c'est une belle maison.
Hélène de Windhorn. Alors, c'est une BD qui aurait pu être éditée chez Urban parce que ça vient des États-Unis. On a Tom King au scénario, donc qui est un grand scénariste américain qui a fait beaucoup de super-héros et qui s'en détache que très rarement. Donc là, c'est la première fois qu'il fait une BD sans super-héros, ou une des premières fois en tout cas. Et Blikis Evely au dessin, qui a reçu le prix de la meilleure dessinatrice pour ce comics-là. Elle l'avait reçu aussi pour son comics d'avant qui s'appelait Supergirl, Woman of Tomorrow. Et à la couleur, c'est Mathieu Lopez. Donc les trois ont travaillé sur le Supergirl dont je vous parlais. Et Hélène de Windhorn est aussi une réussite. Parce que, aussi étonnant que cela puisse paraître, le Supergirl était incroyable.
Alors là, on dirait plus du fantastique un peu à l'anglaise, tu vois, côté Sandman, ce genre de truc.
Mais là, il faut savoir que Blikis Evely a aussi travaillé sur Sandman. Quelle force. Elle a fait un spin-off de Sandman. Donc on est effectivement, il y a un côté très anglais dans la narration, un petit peu oui, un petit peu à l'anglaise, alors qu'on suit une jeune femme qui a la vingtaine d'années, qui est alcoolique depuis ses 12 ans parce que son père l'a toujours un peu poussé à boire. son père il vit un peu comme un hobo, un sans-abri qui navigue dans les États-Unis de train en train, et son père est aussi un auteur de pulp ultra reconnu. Le pulp, c'est la fantasy ou la science-fiction américaine des années 50.
Ça pouvait avoir un côté polar aussi,
ouais,
des fois.
Un petit peu polar.
Petit magazine,
les
pulps.
Cheap. Ouais, les pulps, ouais. Que je dirais plus.
Les pulps.
Et avec des super couvertures, par contre. Et il y a eu l'équivalent, il y avait le polar, mais il y avait aussi l'équivalent.
Après, c'est vrai qu'il y avait le côté Amazing Stories ou des trucs comme ça qui étaient
extrêmement. Oui, c'est ça, mais ça c'était SF. Astounding Stories et tout ça, mais ça c'est la SF.
Et ben là, c'est vraiment le pulp Heroic Fantasy, lui.
Ah oui.
Et il est vraiment très reconnu aux États-Unis, c'est un auteur très très connu, en tout cas dans ce comics-là. Et son père est décédé. Voilà, l'auteur a disparu. Donc le grand-père de cette jeune femme alcoolique décide d'envoyer une gouvernante chercher cette jeune femme pour la sortir de son alcoolisme et surtout pour la ramener dans la maison familiale, qui s'avère être un magnifique manoir familial. La famille
c'est
est blindée
de thunes. C'est Pouldar.
Oui, on est vraiment sur une famille très très riche. Ce qu'avait pas prévu le grand-père, c'est que la cave de cette magnifique maison est remplie d'alcool et que du coup cette jeune femme va s'en donner à cœur joie. elle va picoler à n'en plus finir et naviguer un petit peu dans ce manoir et découvrir que finalement un soir dans ce manoir des monstres apparaissent. Son grand-père serait un chasseur de monstres et son père peut-être que plutôt que d'écrire des récits de fantasy parler de sa jeunesse à travers tous ces récits de science-fiction et de fantasy qu'il écrivait.
C'est malin comme scénar.
Cette jeune demoiselle va donc décider de suivre son grand-père dans cet univers de fantasy et on va suivre ça. Sauf que le petit twist de l'histoire, c'est qu'on suit ça à travers une interview de la gouvernante. Et tout ce qui nous est raconté par la gouvernante des années plus tard. Elle le raconte à un journaliste. Est-ce que ce qu'elle raconte est vrai? Ça va être la grande question de cette BD.
Est-ce qu'ils ont disparu?
Est-ce que Hélène existe encore à notre époque? Est-ce que son grand-père est toujours là? Parce que son grand-père a l'air d'être là depuis de nombreuses années.
Alors, c'est fort, c'est bien. Putain.
C'est un univers de narration qui est assez incroyable. Il faut savoir quand même que Tom King est un narrateur très lent. Quand il nous raconte des histoires, c'est toujours très très lent. Il questionne toujours des points de notre vie réelle. C'est-à-dire que dans toutes ses œuvres, il va questionner plein de choses, mais sur l'actualité. Donc là, ça va être encore le cas. Ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, j'adore Tom King, c'est un de mes scénaristes préférés. Mais ce qui fait que cette BD est incroyable, c'est surtout par son dessin. Blicky Sevely est une dessinatrice fantastique. Elle a gagné deux fois le prix de la meilleure dessinatrice aux États-Unis. Le Will Eisner. Et effectivement, c'est largement mérité.
Alors, par contre, je vous interromps, mais il n'y aurait pas moyen qu'il fasse un peu plus grand. Moi qui suis bien Miro. non, mais regardez, parce que c'est vrai que le dessin est prodigieux. Il y a une multitude de traits, de détails, etc. Il y a des bastons avec des espèces de monstres qui sortent. Et je trouve quelque part que avec des planches plus grandes, montrez-y à Erwan, à Monsieur Pinceau.
Bah, ils ont gardé quand même une base. Ouais. Ils ont gardé une base comics quand même.
Voilà. C'est ça, parce qu'il faut que ça soit commercialisé en base comics. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis pas sûr que.
De toute façon, ça vient des États-Unis.
Oui, ouais. C'est du comics. Ils ont gardé cette base comics. Glénat a fait quelque chose. Et là, moi, j'en appelle à tous les éditeurs qui font des collectors. Glénat a publié Hélène de Windhorn en collector dans un grand format qui est magnifique, mais ils ont supprimé le travail du coloriste. C'est un collector noir et blanc. Alors, le dessin de Blicky, c'est très beau en noir et blanc. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'aux États-Unis, le coloriste n'est pas juste coloriste. Il participe aussi à la scénarisation de la BD. Le coloriste a toujours un rôle très, très important dans l'avancée de la BD. Il n'arrive pas juste à la fin, il est surtout le travail complet de la BD. Supprimer son travail pour un collector, moi, je trouve ça toujours triste. Surtout que la couleur est magnifique et que c'est un coloriste qui fait très toujours juste. De très très belles couleurs.
Non mais là, mais même il y a une, à l'intérieur de la couverture, clac, il y a comme des nuages dessinés. Oui, puis le lettrage et tout. Ouais, non, c'est un bel
objet.
Il y a
énormément de détails, il y a une foultitude de détails. Je trouve ça dommage que ça soit un tout petit peu petit. Mmh. Comme Monsieur Cadbury, tu veux pas.
Mais ils ont respecté le format originel.
Oui, ils ont respecté
peut-être
le format.
Peut-être qu'en agrandissant, je sais pas, ça aura pixelisé. Enfin, j'en sais rien. Bah, non, mais c'est chouette.
Le collector est en plus grand format, donc je pense qu'ils auraient pu agrandir, mais là, ils sont restés sur un format comics. C'est, en fait, c'est le format comics de Glénat. C'est le format quasiment.
Et il est peut-être même un poil plus grand.
Akira de l'époque.
Ouais,
c'est ça, ouais, c'est le format Akira.
Ouais, c'est ça.
Petit chez les Américains.
Oui. C'est bah, ils sont plus petits, ils sont en petits fascicules hyper fins. Ok. Bon, bah, rappelons.
Hélène de Windhorm, de Blick Isevli, Tom King et Mateus Lopez. C'est chez Glénat et c'est Carpetto.
C'est Carpetto. Interlude musical. Variation autour du rock, quoi. Non, le rock dans tous ses états, c'est ça aussi, plume et pinceau. C'était Lush, tiens, je dédicace ça à Fred, Noun Pocotomat, lui aussi, il connaît ce groupe des années 90. Voilà, on a l'âge de notre playlist.
Parlez pour vous. Je vous ai mis du Dick Rivers tout à l'heure. À moi, tiens.
Bah oui, à vous, tiens.
Et pour pas détonner, pour rester dans le ton résolument fun de cette émission, Embrayons par Macbeth. On savait qu'on allait rire aujourd'hui, on rit. Alors, moi, c'est quand même, je remercie quand même messieurs Paul et Gaëtan Brizzi de m'offrir la possibilité de frimer en bistrot en disant « Oui, Macbeth, c'est un peu surfait. »
Et avec un air convaincu, parce avec qu'on sait quoi air... on par... on sait de quoi voilà. on parle, quoi.
Parce que, est-ce que vous avez lu Macbeth, bande de nains?
Deux fois,
bon,
très sincèrement, oui.
Putain,
c'est vrai, j'aime bien Hamlet.
C'est vrai.
Ouais, c'est vrai, je te jure.
Donc, vous aimez bien Shakespeare, vous voulez dire?
Shakespeare, ouais, mais Hamlet.
Il a lu Macbeth, mais il aime bien Hamlet. Le
non, mais j'aime bien, Shakespeare, tous ces trucs, Hamlet, tout ça, j'aime bien, moi. Non, vrai.
Tous ces trucs, là, les Anglais, tout ça.
Ouais, ce côté très, très théâtral, quoi.
Alors justement, vous allez pouvoir nous éclairer sur la façon dont vous voyez cette histoire. Alors je résume. L'histoire commence, on a un chevalier qui arrive, suivi de son fidèle compagnon. Et au château.
Pour moi, c'est du Murnau, tu vois ce que je veux dire. C'est du réalisme. Avec le dessin.
Ils ont remporté la victoire, et puis normalement, ils devraient avoir le cœur plein de joie. Sauf que la femme du comte qui arrive, de Macbeth, donc, elle est surprise de le voir, la mine sombre, etc. Et elle lui demande qu'est-ce qui se passe et tout. Et sur la route, en fait, il a croisé des sorcières.
Qui ont fait une prédiction.
Ouais, une prédiction terrible. Elle lui a annoncé qu'il serait roi. Mais en plus, elles ont annoncé que son fidèle ami serait père de deux rois à suivre. Et là, ça leur gâche un peu l'ambiance, ça leur pourrit l'ambiance. Alors tout ça, je ne vais pas vous faire toute l'histoire. Hein. Vous faites comme Erwan ou comme Carpetto. Carpetto l'a lu deux fois, Erwan... vous le lisez. Ou alors vous faites comme moi, vous reconnaissez que effectivement vous n'allez pas piocher dans un vieux classique pour lire Hamlet. Et vous faites l'acquisition de Macbeth. Macbeth. Vous sortez bien la langue quand vous le dites, Macbeth.
Et c'est bien Shakespeare l'auteur, pas Hamlet. Hein.
Oui, et ouais. pas comment vous nous avez dit tout à l'heure.
Hamlet.
Non, c'est non, Shakespeare c'est, aussi, c'est, ça. C'est,
oui, tout à fait.
Hamlet,
oui.
Ouais. Tout ça, donc ça nous est servi par le talent de messieurs Paul et Gaëtan Brizzi. Alors, à ma grande honte, je ne sais plus si c'est Paul ou Gaëtan que nous interviewîmes il y a quelques années.
Je trouve que la couverture a un faux côté, le film japonais d'horreur Ring.
Oui, Junji Ito, Ring,
ouais.
On l'avait interviewé pour Don Quichotte de la Manche, parce que c'était... Ouais. Non, L'Enfer de Dante.
En fait, ils font des adaptations de grands classiques de la littérature avec des univers Dante. Enfin, tu vas chercher Dante, tu vas chercher Don Quichotte, Cervantes. Vraiment des trucs, des épopées de la littérature, quoi.
Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le travail de Gaëtan et Paul Brizzi, eh bien, il faut pas... Alors moi qui aime bien, en plus, le noir et blanc, on est servi, quoi. On est servi, d'autant que il dessine à quatre mains. Et alors, il nous avait expliqué, un des deux frères nous avait expliqué comment ils travaillaient. Alors, à notre décharge, ils sont jumeaux. Donc, allez les reconnaître l'un de l'autre.
Il y en a un qui vit aux States, je crois.
Ah, mais là, les deux sont là, parfois, au festival. Et ils nous disent que c'est Paul, alors que pour un peu, c'est Gaëtan. Et après, ils rentrent chez eux.
Ils échangent.
Et ils rient. Ils font ça depuis la sixième. Et donc... on a affaire à un dessin hyper réaliste, tout en crayonné. Alors, pour cet album-là, il y a une nouveauté par rapport à L'Enfer de Dante, où on était toujours dans le noir et blanc. Pour cet album-là, c'était aussi le cas, par contre, pour Don Quichotte, pour certaines scènes. Et c'est également le cas pour celui-ci, où on a des scènes, soit des scènes de Macbeth, quand il a ses premières hallucinations, l'idée
les
de
fantômes.
Le roi d'Écosse, mais il y a le fantôme de ses amis qui revient le hanter, quand même. Il faut bien qu'on paye.
Folie.
Justement, la folie. Comment vous interprétez ça, vous deux, qui êtes des spécialistes, justement, de Macbeth?
Parce que, hallucinations?
Non, pas les hallucinations. Comment la mécanique se met en place? Parce qu'il faut quand même le dire aux auditrices, aux auditeurs qui auraient la flemme, comme moi, de lire Macbeth, autrement qu'en bande dessinée, version expurgée. Ouais. Eh bien, c'est la femme de Macbeth qui incite son mari à tuer le roi. Mmh. Vous semblez dubitatif. Je croyais que vous l'aviez lu deux fois.
Non, mais c'est que là, j'ai un peu mal à la gorge.
Erwan, plus sérieusement, vous qui l'avez
c'est
lu,
quoi, la
comment vous interprétez justement le fait que tout porte sur la responsabilité de la femme? Est-ce qu'on peut limiter à ça l'histoire?
Il y a quelque chose qui relève aussi, enfin, de tous les mythes antiques, quoi, les familles maudites, enfin, tu vois.
Sur la couverture, c'est la femme qu'on voit.
Oui. Mais
les sorcières.
Il y a toujours des histoires comme ça. Ça vient, je dirais, des mythes antiques aussi. Etc. C'est que des histoires de famille avec les femmes, etc. Les ambitieuses, les familles qui se déchirent. Je dirais que c'est une littérature déjà qui vient de ça. Et puis là, à la sauce vraiment anglaise, quoi.
Et là, c'est vrai que Lady Macbeth,
il y a les ambitieuses.
Elle est quand même un petit peu tordue du cul, quoi.
Ce qui est marrant, c'est le côté psychologique. Moi, je trouve dans Macbeth, avec les hallucinations et tout ça, il y a le côté très moderne, je trouve. C'est presque une analyse de qu'est-ce que c'est que la folie.
Ouais, okay. Alors en fait, ils deviennent tous les deux fous parce qu'il n'y a pas que le bonhomme hein, qui a des allus à la fin, et elle aussi.
Avec le côté vraiment tragique à l'antique. Moi, j'aime bien ce genre de trip.
Ah, donc voilà, Macbeth, vous voulez
frimer. Le dessin est beau.
Vous voulez frimer chez Monsieur Plume. Eh bien, vous allez chez Monsieur Plume voir l'apéro et vous pouvez parler de Macbeth. Alors lui, il l'a lu dans le texte.
Mais du coup, là.
Moi, je l'ai lu uniquement en bande dessinée. Et c'est toujours magnifique. Mais vous, alors il y a ça, c'est aux éditions Daniel Maguen. Mais il faut savoir que ces deux auteurs travaillent également chez Futuropolis, où ils traduisent en bande dessinée des grands classiques, Le Fantôme de l'Opéra, La Chute de la Maison Usher, Double Assassinat dans la rue Morgue, etc. Et on peut profiter de leur boulot chez deux éditeurs. Voili, voilà, Macbeth. Ça s'appelle. C'était une chronique de Monsieur Fringant. Voilà. Voilà.
Moi, je vous emmène au fin fond des États-Unis, dans le Kentucky. Hazard. L'histoire va commencer avec un train. Une jeune femme va en sortir. Marie Barbara, dite Barbie. Oh là là. Elle arrive à Hazard, donc c'est un coin complètement vraiment paumé des États-Unis. Et un type l'attend dans la gare. C'est Hank, c'est son beau-frère en fait, son beau-frère qu'elle va le découvrir à ce moment-là, parce que Marie-Barbara, elle a un parcours de vie qui est un peu compliqué, et donc à un moment, on sait pas trop comment les deux ont été mis en contact, mais elle a décidé de se marier avec un certain Bram, donc qui est le frère de Hank. Le beau-frère est là pour la récupérer, parce que l'autre, il est fermier, il est dans sa ferme en train de faire des trucs de fermier. Et en fait, c'est l'histoire d'un coup de foot qui va avoir entre les deux personnages, parce qu'ils sont tous les deux épris de liberté, qui se traduit notamment pour leur amour pour la musique et la musique moderne, c'est-à-dire celle de Elvis, quoi.
Eh ouais, le rock and roll, parce qu'ils ont quand même tous des têtes de rocker quand même dans ce tout.
Exactement, ça s'appelle rockabilly. Et donc il y a cet hymne au rock and roll dans cette histoire, et puis il y a un côté très Steinbeck, parce qu'on va vraiment aller dans le Kentucky des années d'Elvis, donc 50-60, chez des petits blancs, tu vois, un peu paumés.
Dès les premières planches, c'est tragique.
Tu tombes dans une famille, la Marie-Barbara, la toute séduisante qui arrive, elle arrive dans une famille où il y a il y a que des mecs, la mère a disparu. D'ailleurs, ça va être une histoire aussi, une intrigue qui va être associée à cette histoire, cette séduction que l'on sent entre les deux personnages. Il y a un troisième fils, de cette femme disparue, donc un de ses beaux-frères aussi, qui est plus jeune, qui est un peu taré. Le papa est hyper chelou. Enfin, elle tombe dans un univers de mecs vraiment de petits blancs, quoi. Et là, c'est un côté Steinbeck, Populo, etc. Donc ça mêle cet hymne rock'n'roll, cette histoire un peu romantique, et puis cette plongée au cœur d'une Amérique blanche, rurale,
réactionnaire,
etc. Et qui font eux-mêmes leur propre alcool, enfin, tu vois, ce genre de truc.
Ça, c'est pas désagréable.
Non, mais ça vire pas à massacre à la tronçonneuse non plus. Je veux dire, on va pas tomber chez les frics total. Mais tu sais qu'il y a un secret. Déjà, il y a un mystère autour de la disparition de la mère. A-t-elle vraiment disparu? A-t-elle vraiment plaqué tout comme ça un certain soir? Ou à tort, est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose, quoi? Ça, c'est desservi par un dessin. Alors, couleur directe. Qui est pas désagréable, c'est pas forcément ma cam, mais je peux pas dire que c'est nul, quoi. On est dans une veine réaliste, donc on voit bien les traits.
Hein.
C'est une belle couleur directe de Christophe Dubois. Et puis c'est Rodolphe au scénario, donc c'est un type quand même. On le sent bien, notamment autour des éditions Daniel Maguen, puisque c'est encore une fois une production Daniel Maguen. Il a vraiment pris une place importante, un peu c'est Hans Park dans ce cercle là. Et puis c'est un mec qui a un sacré quand même background scénaristique. Ça se tient bien, voilà. Puis ce côté déclaration d'amour au rock'n'roll qui vont jusqu'à faire que, parce qu'en fait le beau-frère là, le Hank, il va avoir un destin musical, quoi. aussi. Et on va croiser pas mal de Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, parce qu'il va les rencontrer en fait. Donc c'est assez chouette, ça mêle plusieurs dimensions, c'est plutôt bien mené. Ça s'appelle Rockabilly, un one-shot des éditions Daniel Maguen, avec Rodolphe au scénario et Dubois, Monsieur Dubois au dessin.
C'était donc une chronique de Monsieur Plume.
On a fait le tour, donc c'est le temps de l'interlude musicale.
Yes.
Allez, programmation à Carpetto.
Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I found my ego. I felt rebuttal standing there. My transcendence, it played in mono, painted blue. You were the Pyro, I was the dark room. I'm the shining light in your eyes. You probably shine it back on me, but I won't fall this time. The service station on the road. I took the acid under the white horses. My heart it quicker. I could not tear myself away. Became addiction. If you see darkness, look away.
Très bonne programmation, monsieur Carpetto. Très bonne programmation. C'est marrant, je vous disais que j'avais vu la pochette de cet album, en fait, The Ballad of Darren, je crois que c'est le nom de l'album de Blur, là. Fait. C'est le dernier, si vous me rappeliez,
ouais,
je crois.
J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois.
C'est pas, effectivement, un des morceaux les plus connus. Et cette pochette, je l'ai vue à l'Agassi, dans l'exposition autour de l'Angleterre.
Et vous me rappeliez le nom du photographe, déjà?
Et justement, je m'en souviens plus. C'était pas Martin Parr, mais c'était vraiment un photographe un peu dans cette ligne-là, qui montre l'Angleterre, parce qu'en fait sur la pochette, vous la verrez sur le blog, mais tu as un type qui est dans une piscine très bleue en train de faire des lignes, et en fait la photo est en Écosse, au bord de mer, et tu vois la mer, la vraie mer derrière, est tout gris, et le ciel est tout gris parce que c'est l'Écosse, et on doit être au mois de septembre, quoi. Et il y a un contraste entre la nature et l'artificialité créée par l'homme.
Oh, c'est beau ce
que vous dites, mais elle est vraiment très très belle pochette.
Trop bien.
Très très bien pensé. En tout cas, bravo pour votre programme. C'est un compliment, vous énervez pas.
Merci.
Non, mais je le sens un petit peu.
Je m'énerve si je veux.
Il est en insécurité, on dirait, quand il est là.
Non, mais c'est la boutique dont on tira le nom. Vous savez, là-bas, je suis toujours en insécurité.
Ah, d'accord.
Vous pouvez jamais dormir, jamais vous reposer. Non,
c'est ça d'être en prison. Alors, mais quand même, à vous l'honneur. Ça a l'air vachement bien, ça.
Oui, c'est vraiment une programmation comics. Pour moi, c'est encore une BD qui nous vient des États-Unis. Alors, mon meilleur accent anglais. La BD s'appelle The Moon is Following Us.
La Lune nous suit.
La Lune est en train de nous suivre.
Est en train de nous suivre, ouais.
C'est de Daniel Warren Johnson, Riley Rosmo et Mike Spicer.
Moi, je dis vous inventez.
Pas loin. Alors, il y a en fait cette BD est de deux dessinateurs et un coloriste. Mais il faut savoir que Daniel Warren Johnson est dessinateur et Mike Spicer aussi. Mais les deux scénarisent et dessinent leur BD ensemble toujours. Riley Rosmo, c'est le nouveau dans le trio. Et qui vient faire une partie du dessin de cette BD. Alors, de quoi parle cette BD, vous me direz?
Je vais vous le dire.
Je vais vous le dire.
Alors, avant, vous veniez les premières fois, vous aviez un petit cahier, l'orthographe avait été corrigée par Matadora, c'est très bien, il avait son petit cartable et tout, son petit goûter. Maintenant, il a une feuille vraiment il fait son punk.
J'avais oublié que je venais aujourd'hui.
Pour être aussi incompétent que nous, il nous a fallu 20 ans, nous.
Et ouais, et nous, 3 émissions. Et ça, c'est
ça
beau.
Me fait peur.
La fougue de la jeunesse, vous me disiez. Du coup, alors oui, on suit un jeune couple qui se bat dans un monde fantastique. On a du mal au début à comprendre ce qui est en train de se passer parce qu'ils sont dans une sorte de mission où ils doivent récupérer quelque chose et on se rend rapidement compte que ce jeune couple ne vient pas du tout d'un monde fantastique. Ils viennent d'un monde comme le nôtre actuel, seulement ils ont la capacité de manière régulière de s'introduire dans les rêves de leur petite fille. Leur petite fille est endormie depuis de nombreuses années et eux tentent de la réveiller en s'immisçant dans ses rêves et en allant la chercher, la retrouver pour la sortir des rêves.
Ah, on est dans le rêve alors.
On est dans le rêve, effectivement.
D'accord.
Et donc, pourquoi deux dessinateurs ?
C'est malin ça aussi.
Un vient dessiner la partie rêve
et l'autre, le monde réel.
Le monde réel. Et on est vraiment dans les rêves d'une petite fille. On est dans les rêves d'une petite fille où eux vont avoir des capacités pour s'armer et se battre contre les potentiels cauchemars ou les potentielles créatures qui gardent leur petite fille endormie. Et toutes ces capacités, ils l'ont eues grâce à un magicien. Un magicien qui est apparu dans leur monde et qui leur dit « Moi aussi, ma petite fille a disparu de cette manière-là. On m'a fourni cette capacité pour aller dans ses rêves. Je n'ai pas réussi, mais là, c'est votre tour. » Et c'est à vos tours d'y aller. Et donc, on va suivre ce couple qui, dans la vie réelle, vraiment est en train de se perdre parce qu'ils passent leur temps à essayer de naviguer dans les rêves de leur fille. Mais par contre, dans les rêves, c'est vraiment une sorte de super-héros dans les rêves. Voilà.
Et donc, c'est on dirait presque une métaphore, comme si c'était... Enfin, je sais pas, je vois ça d'un côté. Est-ce que ça pourrait pas être des parents qui seraient confrontés à la maladie de leur enfant, un truc comme ça?
Il y a un côté comme ça. Et puis, il y a un côté, l'autre côté du miroir, l'entrée dans la matrice, enfin, ce genre de truc, quoi.
Exactement. On va avoir ce truc-là de passer
d'un monde à l'autre.
D'un monde à l'autre.
D'une réalité à l'autre.
Il faut savoir que Daniel Oren Johnson et Mike Spicer se sont fait connaître. En fait, ils publiaient sur un blog complètement indépendant aux États-Unis. Ils publiaient une histoire qui s'appelait Extremity, qui était l'histoire d'une jeune fille une jeune fille qui va voir son père rentrer dans une quête de vengeance très très violente, mais tout ça questionner le lien familial aussi. Et en fait, les deux, quand ils font des BD ensemble, questionnent toujours ce lien familial et ce besoin de se rapprocher, ou le lien d'amitié, et souvent à travers des histoires un petit peu tristes de maladie. C'est très beau, c'est très fort.
C'est à ça que ça me fait penser tout de suite, ce combat de parents face à leur petite fille et leur gamin qui leur échappe.
Ouais, et puis on va essayer de comprendre pourquoi cette jeune fille a décidé de rester endormie, parce que peut-être que c'est un choix aussi. C'est vraiment soufflant, ils sont très forts. Oui, c'est bouleversifiant, mais à travers un récit qui, de temps en temps, on rentre quand même dans des rêves de petite fille, donc on peut avoir une licorne rose qui apparaît et qui s'avère être un monstre incroyable pour lutter. C'est très fort. Et drôle parfois.
Ah ouais, c'est bien. C'est un one shot.
C'est un one shot. Oui, c'est un one shot en beaucoup de pages. C'est un gros one shot, un gros pavé avec deux dessins. Alors le deuxième dessinateur, Riley Rosmo, moi je le découvre, mais il a un dessin qui s'approche assez de Daniel Oren Johnson. Daniel Oren Johnson, c'est un dessin très très pulp, je dirais aussi très très coloré, très très pop plutôt que pulp. Voilà. Et ça fonctionne très bien.
Ouais, ça a l'air très chouette. Bravo, belle prog. Merci. Belle prog, moi je dis.
Ah, l'autre faillotte.
Alors, c'est quoi, c'est fringant. Le génocide,
allez-y,
c'est quoi
traitez-moi de vieux fringant. Et toi, vieux fringant.
Et toi, vieux fringant, c'est quoi, du rigole ou du triste?
Non, alors là, c'est aujourd'hui, je vous avais prévenu, aujourd'hui, le moral, c'est comme ça, c'est à zéro. Vous voulez que je vous parle d'Éric Woerth ou de Bruno Le Maire qui était prévu dans le dernier gouvernement Le Cornu? Voilà le genre de choses qui me rendent mauvais pour la semaine.
Alors, j'ai une question vis-à-vis de ça. Vu qu'ils ont été, du coup, ministres pendant 24 heures, est-ce qu'ils vont avoir une retraite de ministre ?
Non, il paraît que non. Cette fois-ci, exceptionnellement, j'ai entendu Saint-Sébastien Le Cornu de l'Enfant Jésus dire que non, cette fois-ci, quand même, parce qu'ils n'ont même pas eu le temps
de faire
la
passation. Parce que là, ça
allait se voir. Genre, ils n'ont même pas fait la passation.
Mais ils l'ont déjà été, en fait.
Oui, tous donc, ils l'ont déjà été.
Donc, Bruno Le Maire, il a fait tous les ministères. Il était ministre de l'Agriculture sous Sarko, ministre des Finances sous Macron. Enfin bref, il allait être ministre de la guerre face à Poutine. Eh ben putain. Bref, le souffle du diable. Superbe couverture, d'ailleurs, de la boutique dont nous tairons le nom. Vous l'aviez mis en exergue, fut un temps, durant les 35 minutes auxquelles chaque bande dessinée a le droit dans une boutique moderne désormais.
C'est à peu près ça, oui.
Le souffle du diable a eu le droit à ses 35 minutes. En tout cas, quand je suis passé avec Floppy devant la boutique, je l'ai vu.
On l'avait mis pour vous, et une fois que vous étiez passé, on l'a enlevé.
Donc, le souffle du diable de un monsieur que je ne connaissais pas. Ken Brothers.
Brothers, vous dites.
Alors, on est dans le Nord. On est dans le Nord parce que c'est aux éditions.
Bruder, alors. Bruder, peut-être.
C'est plus. Plus comme vous le dites. Parce qu'on est chez les éditions Anspar.
Anspar.
Et vous savez qu'ils se sont fait fort de mêler la grande histoire à la petite et de nous narrer nombre d'événements historiques.
À sa narre.
Et là, c'est rigolo parce que... Enfin, en fait, c'est pas vraiment rigolo. Ça s'appelle déjà le souffle du diable. Donc, vous voyez bien, on va quand même pas se fendre la gueule à chaque page. Mais ça fait le lien entre l'explosion du Lucky. Est-ce que vous saviez ce que c'était, les nains, le Lucky?
Non.
Non, aucune idée, vraiment aucune.
Eh ben moi non plus. J'en avais pas plus l'idée d'avant. Sur l'île de Lucky, au large de l'Islande, en 1783,
une éruption.
Qu'il y avait un putain de volcan. Et le 8 juin 1783, le volcan islandais Lucky se réveille avec une force dévastatrice. C'est la pire éruption volcanique des 1000 dernières années. Une crevasse de plusieurs kilomètres de long s'ouvre et crache des torrents de lave qui changeront de paysage à jamais. Tout petit roulis, petit roulis.
Pour moi, la plus chouette, ça demeure Pompéi.
Ouais, mais alors attendez. Les conséquences de cette catastrophe sont terribles pour l'Islande. Le Lucky empoisonne la terre. Donc, il va y avoir, à partir de cette explosion géante, une pestilence qui va se répandre sur la Terre. Genre, vous voyez, en plein été, c'est l'hiver.
Vous êtes maudits.
Mais Tout ça est bien vrai.
Tout ça est bien vrai.
D'accord.
Et j'ai vérifié. Alors, il y a un superbe dossier. Il y a un petit dossier derrière où on vous explique tout ça. L'île de la Quille, 1783. J'ai vérifié aussi de mon côté. Et on a un témoignage de Gilbert White, naturaliste britannique, contemporain de l'époque. Il dit, l'été 1783 fut marqué par des événements étonnants et de mauvais augure, avec une succession de phénomènes effrayants. Outre les météorites menaçantes et les tempêtes dévastatrices qui ont secoué les différents comtés du royaume, une brume étrange et un brouillard dense ont persisté pendant plusieurs semaines sur cette île et dans toutes les régions d'Europe, voire au-delà. Et on a eu des morts, parce qu'effectivement, il s'agissait de gaz soufrés qui se sont répandus sur une bonne partie de l'Europe, et notamment en Islande, hein, puisque c'était en Islande ils ont été les premiers servis, premiers mourus, vous voyez.
Et, il était à eux, le volcan. Ouais,
et
ouais,
ce phénomène va se reproduire comment, jusqu'en Europe, plus au sud, méridionale, et notamment en France. Et il faut savoir que là, on est en 1783. Et quelle est la date à laquelle vous pensez ensuite ?
1783 ?
Ouais,
1789
après. Eh ben ouais. Parce qu'à cause de ce putain de Lucky, eh ben va y avoir plusieurs hivers de merde. Vous voyez le genre. Mmh, mmh. C'est-à-dire que le phénomène des brumes toutes pourries,
tout
ça,
tient.
C'est vraiment le premier été, quoi. Après, ça va disparaître. Ce qui ne va pas disparaître, c'est l'été breton, genre. Mmh. Printemps breton, été breton, automne breton, hiver breton. Clair, il ne fait jamais jour. Et c'est ça qui va nous tomber sur la gueule, provoquer plusieurs, récoltes merdeuses, jusqu'à arriver à celle de 1788, qui précédera la révolution 1789. C'est aussi un petit peu ce à quoi nous fait penser cette bande dessinée-là, puisque à travers le destin d'une sœur et son petit frère, son demi-frère en fait, perdu dans une auberge, on pense qu'on n'est pas très loin de Paris. Alors on a une femme qui habite là, qui est très revêche avec le petit frère. On découvrira plus tard pourquoi. Et son demi-frère est vraiment pas cool. Elle fait bosser comme un tordu, etc. Alors que ça a l'air d'être un bon petit gars.
Une thénardière.
Ouais, mais elle n'est pas si vieille que ça. C'est pas encore une thénardière. Elle n'a même pas 40 ans, vous voyez. Donc à l'époque, c'est une... Elle est encore jeune. Et sauf qu'elle s'entend... Elle traite comme un clébard son demi-frère. Heureusement pour le demi-frère, il y a une espèce de bonhomme qui habite là, qui est plus cool. Sauf que, suite à l'arrivée de ce brouillard de merde, eh bien, les clients disparaissent, tout disparaît, et l'espèce de bonhomme qui vit dans l'auberge décide d'aller chercher du secours quelque part et d'avoir des renseignements, quoi. On sait pas ce qui se passe. On n'y voit plus coup de mon pauvre ami. Et c'est durant ce temps-là que, plongé dans le fait divers, vous imaginez bien que quand il y a du brouillard, toutes sortes de malandrins en profitent. Quand c'est gris, les chats aussi, eux aussi sont gris. Il n'y a pas que les chats. Il y a aussi du tordu. Donc il va arriver moult malheurs qui vont leur permettre quand même de se comprendre, de se connaître. Et de s'apprécier. Et on voit comment, à travers cet événement climatique qui suit le volcan, et bien effectivement, c'est tout un monde qui bascule et tout un univers. En plus, c'est rigolo parce qu'on est quand même à la période des Lumières. Les Lumières ont commencé à faire leur œuvre. Mais l'arrivée de cette brume pestilentielle jette un climat quand même de doute dans les pensées des gens parmi même les plus rationnels. Voili voilà. Ça s'appelle Le souffle du diable de Ken Brodeur, vous dites, vous ?
Brudeur, ouais.
Brudeur.
Histoire de faire un peu...
Aux éditions Anspar, et je trouve que la couverture est très très belle, avec cette image du diable, un fond orange, très très inquiétante, avec une maison face à Amityville sur une colline, dont on se demande bien ce qui va se passer.
Si je ne dis pas de bêtises, il y a une BD qui a reçu le Fauve d'or Angoulême il y a quelques années qui s'appelait La saga de Grimr et de Jérémy Moreau et qui parlait de cette même éruption volcanique en Islande. Voilà, donc
1783.
Si vous voulez faire un lien entre les deux.
Ouais.
Ouais. Je connaissais pas, sincèrement.
Et ben moi non
ce
plus.
Côté Pompéi islandais.
Merci donc aux éditions Anspar, vous dites, et à monsieur Brudeur.
Brudeur.
Yavol. Brudeur. Le souffle du diable. Et ça, c'était la dernière chronique, je crois. C'est ça.
Ben oui, on va s'écouter un morceau de musique et puis après, on va poser la question.
De Monsieur Pinceau.
Time of the test. De Monsieur Pinceau, dit Roger, dit le teigneux. Dit le mauvais.
Dit le mauvais.
Dit la dent dure.
Voilà.
Dit.
Il n'oublie jamais.
Ouais. Et je suis preneur pour un t-shirt, un pins, un truc comme ça. Il a beaucoup de surnoms, ce gars.
Un petit supplément. Parce que pas vous, pour un t-shirt.
all over.
Johnny Kidd and the Pirates, Shaking All Over. On a fait le tour du rock'n'roll un petit peu.
Voilà, et ça tombe bien parce que on va pouvoir... Alors, on revient au concours, on rappelle.
Il aurait fallu un truc de cymbale comme ça. Il faudrait un truc pour lancer le concours, tu vois.
Bon ben voilà, ça sera ça, ça sera ça le truc pour lancer.
Moi je peux
le
faire du beatbox si vous voulez.
Si vous n'avez pas quitté l'émission en route, vous avez dû, vous devez vous rappeler que il y a 10 places à faire gagner pour le festival Quai des Bulles.
En fait, il y a 10 tickets pour les 5 premiers. Voilà. Les 5 premiers gagneront quelque chose.
Les 5 premiers gagneront un ticket, 2 places, ou 2 tickets, 1 place. Voilà.
Voilà. Ou alors 3 places, mais moins une.
Voilà. On va limiter à ça. Et donc, ça sera ça. Donc, le premier gagnera soit 2 tickets, 1 place, ou 1 ticket, 2 places, de manière à inviter qui ? Son petit frère, sa petite sœur, sa grand-mère, son grand-père, ou éventuellement un ami, s'il en a encore.
Attention au kiss cam, hein, ça peut dégénérer.
Donc, pour ce faire, il va falloir donc nous dire qui a chroniqué la bande dessinée Drôme de Monsieur Lonergan. Donc, voilà. Est-ce Monsieur Carpetto ? Est-ce Monsieur Fringant ? Est-ce Monsieur Plume ?
Réponse 4, aucun des trois.
Il n'y a pas de réponse 4.
Je vous l'ai dit, c'est
Matador. Vous allez écrire sur le mail, donc je vous donne le nom qui sera rappelé sur l'excellent blog de l'émission Plume et Pinceau. Les Grignoux, tout attaché à LESGRIGNOU, tout attaché @yahoo.fr. Et les 5 premiers qui effectivement nous donneront la bonne réponse pourront aller chercher le pass à la librairie dont nous tairons le nom et l'adresse pour pas avoir à dire qu'on fait de la publicité à une librairie qui serait située rue Saint-Hélier, mais on vous redonnera l'adresse précise
en réponse de mail.
En réponse de mail. Tu recevras yes, t'as gagné, rends-toi dans le parking souterrain de... sous le cinéma et tu verras
en
un homme
cas,
avec
pas,
un impair.
C'est pas des bêtises, contrairement à ce que notre allure hilar pourrait faire penser. Il y a vraiment des places à gagner. Et puis c'est toujours intéressant parce que c'est quand même 75€ l'entrée cette année quand même.
Non. C'est des passes une journée ou c'est des passes pour
une journée, une journée. Vous pouvez aller donc, c'est super parce que vous pouvez aller soit voir les expos, les conférences, les débats, etc., ou alors aller chez les marchands du temple de l'autre côté et rencontrer les dessinatrices et les dessinateurs pour pouvoir avoir des bandes dessinées dédicacées. Vous avez accès à tout gratuit.
Ouais. On a même le temps d'un dernier morceau de musique. Ça vous dit, les gars?
C'est parfait.
Ah oui.
Allez, tac au tac, Crimson Waves.
Surfing the wave.
Voilà, après ce détour à la plage, il va être le temps de nous quitter. Rappelons donc qu'il faut trouver lequel des trois individus présents actuellement autour de cette table, lequel a chroniqué
l'ouvrage Drôme. Et écrire sur le blog, sur la boîte mail suivante, lesgrignoux, tout attaché, sans S, sans X, @yahoo.fr. Et vous pourrez gagner des places pour, comment dirais-je...
Deux personnes.
Faut être les cinq premiers.
Voilà. C'est la seule condition.
Voilà. Et aller les chercher après à la librairie dans le centre-ville, c'est quand même assez facile.
Impeccable. Eh ben, bientôt, ça m'étonnerait pas qu'on arrive bientôt à Quai des Bulles, d'ailleurs, aussi. On s'y croisera peut-être, tiens.
Peut-être.
Vous y serez aussi, vous?
Ah, bah oui, toujours.
Caché sur les stands. Avec nous, ils nous ont dit, ils viendront pas manger avec nous parce qu'il paraît qu'on serait mal tenu l'année dernière.
De quoi? De quoi? Un bourre-pif, même pas bonjour.
Et après, vous étonnez que je sois mauvais.
Ok, bon, on réglera ça en micro. Bon, à la semaine prochaine, bonne lecture.
Merci à vous, Monsieur Carpetto, en tout cas.
Merci à vous pour l'invitation, toujours.
Venir passer quelques temps avec nous cet après-midi. Ça vous a aussi un petit peu, je dirais, soulagé du martyr qu'on vous fait subir à la boutique, quand même.
Tout à fait.
C'était comme une permission de prison, quoi.
Ouais, un petit peu, Vous êtes,
vous êtes un petit peu mes parents par procuration.
J'irai pas jusque là.
On va rester.
On va prendre l'air, voilà. Vous détendre avec des gens qui vous respectent.
Et ça, c'est déjà beaucoup.
À la semaine prochaine.